1 Pierre chapitre 3. Pendant que vous cherchez 1 Pierre chapitre 3, je vous rappelle que toute cette la section là qui va du chapitre 2 ici parle de du lien, on pourrait dire de l'adéquation qu'il y a entre le salut et la manière de vivre du chrétien. Le salut et la manière de vivre du chrétien dans toutes les sphères sociales. Ici, les chrétiens sont décrits comme ceux qui sont appelés des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. » Donc les chrétiens sont des personnes appelées par Dieu, tirées des ténèbres du péché et transportées dans l'admirable lumière. Mais ils le sont, dit-il ici, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Autrement dit, le chrétien est appelé, mais il est aussi appelé à un témoignage auprès du monde. Il est appelé à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Nous avons considéré l'attitude du chrétien face aux autorités. Chapitre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Nous avons considéré que cela faisait partie de ce qui est commandé au verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Et si on lit l'épître de Pierre, on voit combien la conduite est important. Je crois que le frère a lu 1 Pierre 1, verset 17, où il dit « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme », le prochain verbe c'est quoi ?« Conduisez-vous ». Et il insiste plusieurs fois sur la bonne conduite que doit avoir le chrétien dans toutes les sphères sociales de sa vie, hein. Donc, face aux autorités, particulièrement en étant soumis, un citoyen soumis, face au domaine professionnel, par exemple au verset 18 où il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres », donc dans le domaine socio-économique, on pourrait dire les domaines socio-économiques. Et puis, dans le passage que nous allons lire, eh bien, il est question aussi de l'attitude, de la bonne conduite des croyants dans le foyer. Donc dans le mariage. Donc j'ai intitulé cette épître « Vivre en chrétien dans le mariage ». Vivre en chrétien dans le mariage. Et nous allons lire ici les 7 premiers versets du chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 et au verset 7. Il est dit, verset 1, pardon, il est dit, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Verset 3. Ayez non cette parure, donc on parle toujours aux femmes ici, hein, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur Marie, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Jusqu'ici, Notre lecture ce matin, nous venons de lire des paroles qui feraient bondir de rage à beaucoup de gens de notre société, de notre temps. Et peut-être même quelques personnes ici peuvent être mal à l'aise avec ce qu'on a lu. Peut-être on peut le lire pour soi, mais on dit, bon, mais c'est pas quelque chose que je vais dire quand même aux autres, parce que bon... Ce ne sont pas des choses qui sont en vogue dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Si on accepte du bout des lèvres une certaine soumission aux autorités civiles, qu'on est prêt à aller jusqu'à le respect d'une certaine hiérarchie dans le milieu professionnel, quand on arrive dans le secteur du foyer et du rapport entre la femme et l'homme, parler de soumission... Et quelque chose qui est explosif, qui n'est pas concevable dans cette société souvent où l'on tente de balayer la différence de genre, il semble parfois être à côté de la plaque, n'est-ce pas, de parler de cette manière, même d'oser prononcer les mots de soumission et encore. Moins celui de, vous avez fait attention, sexe faible. L'apôtre Pierre dit, comme avec un sexe plus faible. Et dire, je voulais dire plutôt que dire quand on lit en plus ce passage, hein, parce que vous avez remarqué combien de versets parlent de la femme, on a lu 7 versets, et combien parlent de l'homme. Un seul. 6-1. Et voilà qui pourrait faire dire à certains, voilà, n'est-ce pas, ici un flagrant délit, on pourrait dire, d'inégalité. Hein, flagrant délit d'inégalité. Pourquoi 6 versets pour parler de la soumission de la femme et un seul verset pour parler ici de l'homme? Est-ce que la Bible n'est pas, ou le christianisme n'est pas quelque chose qui est profondément oppressif, en tout cas à l'égard des femmes. En tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devons premièrement nous confier dans la vérité que Dieu agit pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. Et qu'en aucun cas il ne veut, hein, on dit dans notre catéchisme qu'il est le bon et fidèle Père. On a parlé du fait que Dieu est un Père ce matin, qu'il est le bon et fidèle Père. Ésaïe 48, 17, 18 dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » En d'autres termes, si on se soumettait, on obéissait à tout ce que Dieu, ce que Pierre écrit ici par l'Esprit Saint, notre bonheur serait comme un fleuve. Hein, notre bien-être serait comme un fleuve et notre bonheur comme les flots de la mer. La raison pour laquelle nous pouvons connaître des difficultés relationnelles dans le couple ou ailleurs, c'est parce que nous ne mettons pas en pratique les commandements de la parole de Dieu. Et ce n'est pas l'évolution des mœurs de la société, c'est pas dans ça que se trouve le bien-être. C'est pas dans les révolutions que se trouve le bien-être, mais dans l'observation des commandements de Dieu, qui est notre bon et fidèle Père. Alors, le mariage est un lieu où la situation, ou plutôt une situation où Dieu œuvre aussi pour le bien de ses enfants, comme il œuvre dans le rapport que ses enfants ont avec les autorités, soit gouvernementales, soit sur le plan professionnel, il œuvre aussi dans le foyer, où il commande de pratiquer le bien. À chaque fois ici, ce que Pierre dit, pratiquer le bien. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés et qui disent que ça, c'est de l'asservissement. Il dit pratiquez et vous allez voir l'effet que cela aura. Alors, ce matin, on veut considérer le fait de vivre en chrétien dans le mariage. Et Dieu, et je dis tout de suite, cela concerne nous tous. On va voir après, mais cela concerne nous tous. Parce que ce qui est dit à surtout dans, ici, aux femmes et aux hommes, on peut pas dire que, les autres qui ne sont, je veux dire, ceux qui sont mariés, les autres qui ne sont pas mariés ne sont pas concernés par cela. C'est pas vrai, hein. Tout ce qui est recommandé ici, aux uns, à cette catégorie spécifique de personnes est recommandé aussi à tous. Mais on va commencer par voir quand même ce que Pierre dit, d'un côté, ce que l'Écriture dit, d'un côté aux femmes mariées, et particulièrement aux femmes qui sont mariées et dont le conjoint n'est pas chrétien. D'accord ? Je profite pour dire qu'il ne dit pas que ce sont des personnes qui se sont mariées à des inconvertis, hein, mais probablement ce sont des femmes qui sont devenues chrétiennes étant déjà mariés, parce qu'à cette époque-là, les exigences, d'accord, pour se marier à un non-chrétien qui adorait des dieux et etc. étaient tellement grandes que une chrétienne le prix à payer était trop élevé. Il fallait renier son dieu, adorer le dieu du mari, etc. Les choses à faire étaient trop grandes pour que une femme chrétienne s'allie avec un non-chrétien. Donc probablement la situation dont il parle ici sont des situations où la femme est devenue chrétienne et le mari ne l'est pas. Et puis on sait par ailleurs que la Bible exhorte, hein, bien sûr, à ne pas s'associer dans le mariage à un inconverti. Mais venons à notre texte. Premièrement, on veut considérer ici ce que l'apôtre Pierre dit aux femmes. Il parle d'une soumission. Soyez, verset 1, que chacune soit soumise à son mari, pas à tous les maris de la planète, hein, au sien, à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Donc il commande ici une soumission à la femme en lui disant que sa soumission sera influente ici et qu'elle doit se soumettre par la conduite elle aura une influence par sa soumission, par sa conduite, plus que par ses paroles. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Donc, le commandement de soumission concerne toutes les femmes à leur mari, chaque femme à son mari, mais particulièrement ici, l'apôtre Pierre traite d'une situation difficile, comme il traitait de la situation difficile du chrétien en rapport avec les autorités, de l'esclave en rapport avec un maître difficile. Il traite une situation maritale difficile qui est celle d'une femme chrétienne avec un mari non chrétien. Et donc, il n'est pas ici question d'obéissance, on voit bien, mais de soumission à un ordre établi par Dieu. Ce qu'il dit, c'est que la femme chrétienne doit reconnaître, même auprès de son mari non chrétien, reconnaître son autorité, son leadership dans le foyer. Et elle doit se soumettre à cet ordre qui est établi par Dieu. Les femmes pourraient se demander si elles doivent se soumettre à cet homme, à l'époque de Pierre, qui rejette Dieu, qui adore plein d'autres dieux, un pur idolâtre, et qui veut peut-être la forcer à adorer ses dieux. Alors il est important de souligner que la soumission, ça ne veut pas dire que l'on doit faire exactement tout ce qu'un mari demande. Il est important de souligner vraiment qu'est-ce que c'est que la soumission, qu'est-ce que n'est pas la soumission. Alors, la soumission, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme, ni intellectuellement, ni sur le plan personnel, ni sur le plan spirituel. D'accord ? Je sais que souvent, dans notre esprit, quand on parle de soumission, ça veut dire qu'on est quelque part inférieur. Il n'y a aucune infériorité. D'ailleurs, l'Écriture le dit, hein. On va le lire tout à l'heure, mais il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais tous sont un en Jésus-Christ. La femme peut penser par elle-même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites parfois dessus, mais la femme peut penser par elle-même. Elle est intelligente, bien souvent plus intelligente que les hommes, bien souvent plus capable que les hommes. Et ce qui est demandé ici, ce n'est pas de dire que l'on est moins, mais c'est d'accepter un ordre simplement qui est établi par Dieu ici. Plus tard, l'apôtre Pierre donne l'exemple de Sarah. On l'a lu tout à l'heure au verset 6. Il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et le mot ça veut dire maître. Hein. Elle était soumise à lui. Elle l'appelait son maître. Mais elle n'était pas gaga devant lui. Hein. Pas du tout. Quand on lit la Genèse, on voit que Sarah avait du caractère. Hein. Et à un moment même, elle a renvoyé la servante Agar et Abraham n'était pas du tout, en Genèse 21, il n'était pas du tout content avec cette situation. Et Dieu dit à Abraham, écoute ta femme. Hein? Et donc Dieu lui dit, écoute. Quelque part, il devait se soumettre à la décision qu'avait prise sa femme. Donc vous voyez bien ici qu'il faut, quand la Bible parle de soumission, ça n'est pas une question d'infériorité, ce n'est pas le fait que la femme doit faire tout ce que l'homme lui commande. C'est une question de reconnaissance de l'ordre établi par Dieu, de l'ordre et de se soumettre à cet ordre-là tant que rien ne vient faire obstacle à l'évangile ou rien ne vient s'opposer, ce qui est demandé ne s'oppose pas à l'évangile. Évidemment, si le mari ici dit à la femme tu dois renier tes dieux, bien là il est pas question de se soumettre à cela. Mais elle doit néanmoins reconnaître cette autorité. Et l'apôtre Pierre dit, par une conduite exemplaire, plus que par des paroles. Alors regardez ça encore, il dit, chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire que ce qu'il requiert ici de la part des épouses, c'est qu'elles puissent se conduire en tant que chrétiennes, dans le foyer. Il n'est pas question ici, bien sûr, de ne jamais parler, ni de ne jamais annoncer l'évangile, mais on sait bien que l'évangile doit être entendu, hein. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc il faut annoncer l'évangile, mais les mots, les paroles ont une limite. Et Dieu a placé plus d'influence dans l'exemple, la bonne conduite, que dans les simples paroles. Alors, brandir la parole face à son mari est souvent une tentation hein, que peuvent avoir les femmes, certainement. Et il ne faut jamais penser, je crois ici, dans le texte que nous voyons ici, qu'à force de paroles, eh bien, ou à force de débats, ou à force de controverses, eh bien, la femme aura de l'influence. Je sais que maintenant, on milite pour que femmes puissent prendre plus de paroles et on voit partout hein, une prise de parole parfois excessive à mon avis, mais ici l'évangile montre que Dieu a fait en sorte que, eh bien par la conduite, la femme puisse avoir une grande influence sur son mari. C'est ce que l'on voit ici. Par la conduite, elle peut avoir une grande influence sur son mari. Et donc, ce n'est pas en cherchant à le dominer par sa connaissance, qui bien souvent est plus élevée, ça peut arriver, ça arrive, dans le domaine spirituel. Ici, par exemple, dans le cadre de ce couple-là, donc, que Pierre décrit, la femme a certainement plus de connaissances spirituelles que son mari. Hein, elle connaît davantage sur le plan spirituel. Eh bien, elle ne doit pas chercher à s'imposer par cette connaissance spirituelle qu'elle a en considérant qu'il est, voilà, en le rabaissant, qu'il est moins que rien parce qu'il ne connaît pas les choses de Dieu. Absolument pas. Elle doit respecter l'ordre que Dieu a établi. Pierre dit même que cela permettra au mari de voir sa manière de vivre chaste et retenue et respectueuse. Donc l'apôtre Pierre montre que le respect de l'attitude, dans l'attitude de soumission et la recherche de la bonne conduite a une grande portée auprès du mari qui est inconverti. Il dit même ici que afin qu'il soit gagné sans parole. Ça veut dire que par la manière de vivre, une épouse chrétienne peut contribuer au salut de son mari, plus que par les remontrances et les paroles qu'elle pourrait apporter, produire. Donc le Saint-Esprit enseigne par là que même un incroyant est capable d'apprécier que la source d'une soumission et d'une conduite pure et respectueuse au sein des circonstances difficiles est de nature divine. Je le redis, même un incroyant est capable, un mari incroyant est capable d'apprécier que la source de la soumission de sa femme et de sa conduite pure et respectueuse au sein du foyer, dans les circonstances difficiles qu'il impose, parce que ici il est dit ici que c'est un mari, ceux qui n'obéissent point à la parole, c'est vraiment ceux qui rejettent l'évangile, le sens. Il le rejette de manière visible. Hein. Eh bien, même dans ces circonstances, eh bien, il est capable de remarquer que cette source vient de Dieu. Parce que Pierre dit, il peut être gagné sans parole par la conduite en voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Et donc, il y a cette possibilité, quand l'incroyant voit le chrétien vivre, qu'il y ait un terrain favorable à la conversion et au salut. Et c'est exactement ce que Pierre dit en thème général au verset 12. Hein. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et puis, ils glorifient Dieu au jour où il est visiteur. » C'est-à-dire que ce témoignage laissé par la conduite sera un tremplin qui pourra conduire plus tard à l'évangile. Mais si ce qu'ils retiennent, c'est une femme bruyante qui parle et qui a la mitraillette à verset, hein, et et chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un verset qui sort, et puis qui n'a pas cette manière de vivre chaste et respectueuse, cette bonne conduite qui est attendue, eh bien, cela aura un effet néfaste. Donc ça, c'est la première chose que on pourrait dire, qu'on souligne ici, c'est que la soumission influente, l'épouse peut avoir une soumission qui soit influente par sa conduite plus que par ses paroles. Et puis, Pierre montre aussi, deuxièmement, la soumission influente de l'épouse, que l'épouse peut avoir par le développement de la vraie, d'une vraie beauté. Ici, regardez les versets 3 et 4. « Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et ici, Pierre met le doigt sur, sans doute, ce qui est une grande tentation, c'est la recherche de la beauté extérieure par les habits, la coiffure extravagante et les bijoux. Il dit, ayez non cette parure. La parure, c'est l'arrangement, hein, ici, l'ornement. C'est un mot qui est proche du mot, presque qui veut dire monde, mais parfois, Paul utilise avec un mot qui est traduit par cosmétique, hein, qui est un mot qui a donné plus tard le mot cosmétique. Hein. Donc ici, il parle de cet aspect extérieur. Et un commentateur a écrit ceci, il a dit que dans la culture gréco-romaine, les femmes attachaient une grande importance à la parure. Elles recherchaient souvent les meilleurs produits de beauté, se teignaient de façon extravagante, portaient des tresses élaborées et arboraient d'onéreux bijoux, et notamment dans la chevelure, pour mettre en valeur leur élégante tenue. Et je crois que c'est des choses que l'on peut trouver encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a un gros intérêt pour l'apparence extérieure. Par exemple, dans un texte parallèle, hein, l'apôtre Paul dit en 1 Timothée, on avait étudié ça quand on avait vu l'épître de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10, il dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, bien sûr, il ne dit pas ici qu'il ne faut pas se parer, hein, mais il établit un contraste entre la vraie beauté intérieure et la beauté extérieure que l'on a tendance à rechercher souvent. L'industrie du cosmétique est très lucrative, hein, extrêmement lucrative. 3 500 € vendus par seconde dans le monde. C'est énorme, hein, par seconde. Vous comptez combien ça fait, je vais pas faire le calcul, mais, hein, et donc, même pendant la crise sanitaire que l'on vit, il paraît que les grandes firmes de cosmétiques, ont fait des chiffres d'affaires en constante croissance. Hein, il y a plein de choses des choses qui ont chuté, mais pas l'industrie du cosmétique, du rouge à lèvres, du fond de teint, du mascara et tout ce que vous voulez. Hein, parce que ça a continué, les gens ont continué à acheter beaucoup. Et le marché de la beauté et de l'apparence, on peut dire, n'est pas prêt de s'écrouler. Difficile d'échapper aux magazines, hein, où on vous montre exactement ce qu'est la beauté. C'est même le diktat de la beauté. Hein. La coiffure bien montée, le visage bien tiré, la silhouette bien dessinée. On vous dit voilà à quoi vous devez ressembler si vous voulez avoir du succès. Alors bien sûr, ni l'apôtre Pierre ni l'apôtre Paul ne disent qu'il faut s'habiller de manière moche ou que c'est interdit de porter des bijoux. C'est pas ça que le texte dit, pas du tout. Je sais que parfois on pousse loin les choses, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il établit plutôt, comme je l'ai dit, une articulation, on pourrait dire négative, positive, entre l'apparence extérieure, que l'on a tendance à rechercher à tout prix, et puis l'apparence, la beauté intérieure que l'on néglige. Et il dit, ayez non pas cette parure, hein, non cette parure extérieure, mais plutôt cela, hein, d'accord? C'est comme s'il disait, ne courez non pas après la nourriture qui périt, mais après la nourriture solide. Mais il faut quand même aller après la nourriture qui périt, sinon on va périr, d'accord? Donc il ne dit pas de ne pas manger, mais il dit attention, c'est pas là qu'est l'important. L'important, il est dans le fait de se nourrir spirituellement. Et il dit pareil, ce n'est pas dans l'apparence extérieure qu'est l'important, mais c'est dans la beauté intérieure. Il dit la pureté, la parure intérieure est cachée. D'autres textes traduisent le sens exact, c'est l'homme intérieur est caché. Hein. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc ce qui doit occuper la femme chrétienne, c'est avant tout le développement de la vraie beauté spirituelle. Si elle veut que son mari soit gagné à Christ, ce n'est pas en passant son temps dans l'embellissement extérieur, mais c'est en cherchant à développer le caractère chrétien dans le foyer, celle du cœur pur qui se manifeste, l'apôtre Pierre le dit ici, par un esprit doux et paisible. D'accord? Et je crois que je vous ai raconté cette histoire. Déjà, j'avais lu ça quand j'étais tout jeune étudiant et cette histoire est restée dans mon esprit d'un homme qui mariait une chrétienne. Lui n'était pas chrétien, mais alors lui, sa vie, c'était de sortir le soir, faire la fête avec les copains, les amis. Et puis, un jour tard dans la nuit, il rentre chez lui avec ses copains, et puis il dit, allez, viens, on va continuer à la maison, et puis, il dit, je vais demander à ma femme de venir nous servir, et ses copains lui ont dit, mais tu vas pas faire ça. Elle dit, si, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Et puis, les amis se sont dit, certainement, oh là là, ça va barder, là, je sens que ça va, on va assister à une scène. Alors, il est rentré, réveillé sa femme. Elle s'est levée et elle les a servis avec le sourire. Le thé, tout ce qu'il fallait. Puis après, elle est repartie. Et l'histoire raconte que plus tard, cet homme, donc sa femme a eu d'habitude ce genre d'attitude où elle a servi son mari, même dans ces circonstances difficiles. Et plus tard, il s'est tourné vers Dieu, et c'est probablement lui qui raconte ça, hein. C'est lui qui raconte cette histoire, d'accord? Il s'est tourné vers le Seigneur, hein. Alors, la Bible ne dit pas que toujours quelqu'un va se tourner, mais il dit que Pierre affirme ici que si on a une bonne conduite au milieu des païens, cette bonne conduite va servir lorsque Dieu visitera plus tard cette personne. Et c'est ça, avoir cette beauté intérieure et cachée, l'esprit doux et paisible qui témoigne que l'on appartient à Christ. Ce sont ces bijoux de piété qu'il faut porter. Elle doit chercher cela, la femme qui appartient au Seigneur. Le caractère de Christ, sa douceur, sa sainteté doivent constituer ce qu'elle recherche le plus. Et la femme ne peut pas prétendre être chrétienne et passer à côté de ces principes-là. Elle ne peut pas se dispenser de méditer ces principes-là. Ce sont les commandements directs que Dieu lui adresse. Femme, que chacune soit soumise de même à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière chaste et respectueuse, la manière de vivre chaste et respectueuse. Et puis donc, pour cela, ayez non cette parure extérieure qui consiste en les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Bien sûr, il faut s'habiller correctement. Il n'y a pas de mal à être élégant. Mais attention à ce que cette recherche extérieure ne vienne pas, annuler la recherche de la beauté intérieure, celle d'un esprit doux et paisible et d'une pureté incorruptible. C'est ce que le texte souligne ici. Dans le texte parallèle qu'on a lu dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit que c'est une attitude qui convient à des femmes qui prétendent, qui professent suivre Dieu. Je vais vous lire le passage. Il le dit ainsi. Il dit « Je veux aussi que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Autrement dit, il dit « Lorsque l'on, avec la bouche, on dit « Je suis chrétienne », cela doit se voir dans la manière de se vêtir. Si là, il est évident que c'est là où on passe le temps, il y a un problème. Il dit, si on professe servir Dieu, c'est ainsi qu'il faut faire. Et plus loin dans notre chapitre, qu'on est en train de lire, il dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Celles qui espèrent en Dieu, celles qui professent suivre Christ, cela se ressent dans la manière de se revêtir. Si c'est exempt de modestie et de pudeur, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument revoir. Et c'est ainsi, regardez le verset, il dit, c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes. C'est ça que Dieu veut voir chez ses filles, dans l'église, dans le foyer et dans le monde. Et quelle tristesse, n'est-ce pas, lorsque on voit parfois des chrétiennes apparaître dans des tenues extravagantes sur Snapchat ou autre, je sais pas, réseau, c'est triste, mais il faut vraiment qu'on soit vigilant sur cela, Donc, la recherche de la femme chrétienne, c'est la recherche de la beauté intérieure. C'est là qu'on voit vraiment à qui on appartient. Et notez ce que Pierre dit. Il dit ici que cette recherche de la beauté intérieure est d'un grand prix devant Dieu. Vous avez vu ça? Il y a des choses qui sont de grand prix devant les hommes. On fait des concours de Miss Monde, Miss Univers, etc. Ça a du prix aux yeux du monde. Mais ce qui a du prix aux yeux de Dieu, ce n'est pas la beauté extérieure. C'est lui qui a fait. Dieu n'est pas contre la beauté, Quand on lit la Bible, Dieu a fait la beauté. C'est lui qui crée les êtres. Tout ce qu'il a fait est bon et c'est beau. Et il crée les femmes belles. C'est Dieu qui fait la beauté. Mais c'est de l'idolâtrie que de chercher à mettre l'accent sur cette beauté extérieure et à l'embellir encore, entre guillemets, davantage. Il dit que ce qui est d'un prix devant Dieu, d'accord, c'est le prix de la beauté intérieure. Pas le prix de la beauté extérieure. Et puis il dit ici, versets 5 et 6, que les femmes doivent se laisser motiver par l'exemple des saintes femmes. Regardez verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et si vous voulez avoir des top modèles, ben, faut regarder les saints modèles. Les saintes femmes de l'écriture. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se paraient telles que décrites dans les versets 3 et 4. Elles recherchaient la beauté intérieure. Il dit, comme Sarah. Sarah était belle, hein, vous vous rappelez? Même elle était très belle. Elle était tellement belle que son mari avait des problèmes. Abraham. Chaque fois qu'il allait quelque part, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, chaque fois qu'il allait quelque part, il disait à sa femme, surtout, tu dis que tu es ma sœur. Parce que tu es belle, et à cause de ta beauté, on va me tuer pour te prendre. C'était ça, son deal. Et à un moment donné, vous vous rappelez, lorsqu'ils sont allés, je crois, c'était, il y avait un pharaon, je sais pas si c'était le pharaon, je m'appelle plus, hein, l'histoire, mais en tout cas, les hommes de Pharaon vantent cette femme. Ils disent, oh là là, cette femme, elle est très belle. C'est la sœur de cet homme. Et donc, Pharaon l'a fait prendre pour qu'elle devienne sa femme. Bien sûr, Dieu intervient, dit à cet homme dans un songe, cette femme a un mari. Et il dit, mais je savais pas. Il a dit, c'est ma sœur aussi. Et j'étais pur envers elle. Et Dieu dit, je sais. C'est pour ça, Dieu dit que je t'ai empêché de pécher contre elle. C'est Dieu qui a gardé pour qu'il ne commette pas n'importe quoi. Vous voyez, tout ça à cause de la beauté. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. D'accord? Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Donc Pierre prend ici l'exemple de Sarah qui était belle, mais qui avait une attitude soumise envers son mari. Soumise envers son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, elle l'appelait son Seigneur et son Maître. C'est quelque chose qu'elle avait, une attitude qu'elle avait, qui était continuelle. Même si, parfois, elle prenait des initiatives et que Abraham devait suivre l'initiative de sa femme. Mais dans le principe, elle était soumise à son mari. Et Pierre dit, et vous devez le faire sans vous laisser imiter ces personnes. Ça doit être votre magazine. Le magazine que vous feuilletez, ça doit être la Bible. Avec les exemples de femmes, comme les femmes ont fait, je crois, il y a quelques années, elles ont étudié les femmes de la Bible, les caractères où on voit les caractères qu'il faut développer. Et il ne faut pas se laisser troubler par la crainte, ce que peuvent dire les autres, ce que peut dire la société. Ça n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Voilà donc ce que Pierre dit concernant les femmes. Mais je veux aussi prendre un peu de temps pour parler de ce qu'il dit aux hommes. Donc je ne m'étends pas sur les détails de ce qu'il dit aux femmes ici. On a fait longuement une étude sur 1 Timothée, sur la tenue, la modestie, la pudeur. Je vous renvoie à cela. Mais surtout que Pierre ne le développe pas ici. Mais il souligne aussi que dans le foyer, eh bien, le mari doit vivre avec sa femme, ça c'est mon troisième point, en montrant de la compréhension envers elle, sous peine d'une rupture de communion avec Dieu. Je le dis encore, le mari doit vivre avec sa femme en montrant de la compréhension envers elle, sous peine d'une rupture de communion avec Dieu. Et ce que Pierre dit ici est très important, d'accord? Alors certes, il a pris plusieurs versets pour parler de la femme, mais en un seul verset, il dit beaucoup de choses aussi concernant le mari. Le mot « sagesse » qu'il utilise ici, « montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports » verset 7 « avec vos femmes ». Le mot « sagesse » veut dire « compréhension » ou « connaissance ». Il dit « agissez envers elle avec de la compréhension et de la connaissance ». Et le sens du passage pourrait être ceci, « Marie, montrez de la connaissance ou de la compréhension dans votre cohabitation avec votre femme », dans le fait de demeurer avec elle. Si vous lisez dans la transcription d'Alfred Kuhn, on peut lire ceci. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. C'est pas facile, ça. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu le sens que Pierre finit. Donc, comprendre sa femme, c'est un vaste chantier. Quelqu'un a fait une image, je rappelle, on avait une image avec quelqu'un qui a trouvé le livre qui permet de comprendre les femmes. Et c'est un livre qui est comme ça. Et c'était que le premier tome. Tellement c'est compliqué. Mais en tout cas, la Bible dit ici que le devoir du mari, c'est de chercher à comprendre sa femme. Chercher à comprendre sa femme. Le naturel nous pousse vite à juger notre femme et puis à abandonner. De toute façon, on n'arrivera jamais à rien. C'est pas la peine ici. Mais l'ordre de Dieu ici pour le mari est vraiment des plus importants. Il doit chercher à comprendre, à avoir une connaissance plus juste de sa femme dans ses besoins physiques, affectifs, émotionnels. Il doit agir envers elle en raison de cette connaissance qui lui est dévoilée d'elle. Il ne doit pas écarter ce qui lui permet de mieux comprendre son épouse, afin de mieux répondre à ses besoins et de consolider aussi leur lien. Et l'égoïsme, souvent, c'est ce qui nous rogne en tant que homme, et puis aussi en tant que mari, particulièrement dans le mariage, n'est-ce pas? Le mari ne pense qu'à lui, qu'à ses besoins à lui, qu'à ses jeux vidéo parfois, qu'à son sport, qu'à ses amis, parfois même aussi qu'à son service à l'église, et parfois aussi à ses enfants. Et puis souvent, la personne délaissée, c'est la femme. Et on pourrait trouver des exemples dans tous ces domaines, même des serviteurs de Dieu, tellement préoccupés par leur ministère qu'ils négligent leur femme, leur épouse. Et Pierre dit ici, Marie, montrez à votre tour de la compréhension, de la considération. Cherchez à comprendre et à connaître votre femme. Ça, c'est quelque chose qui demande du temps. Alors, comment il dit de montrer cette considération? Eh bien, en prenant compte de certaines fragilités. Il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Le mot qui est traduit par sexe ici, est aussi souvent traduit par vase, comme avec un vase plus faible. Vous savez, parfois le corps est appelé un vase. Dans la version Darby, il dit « Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin. » Donc le mari doit être extrêmement attentif au fait que sa femme a des fragilités. Lui aussi, il est fragile. Mais il en a d'autres, dans d'autres domaines. Et il doit être attentif à cela. Il doit être attentif à sa faiblesse physique. La femme, normalement, a une force physique moindre que celle de l'homme. On entend beaucoup d'histoires où des maris ont usé de violence envers leur épouse, leur femme. C'est rare d'entendre l'inverse. Ça arrive parfois, mais c'est quand même rare. D'accord ? Quand ça arrive, c'est qu'elle a mis fin aux violences qu'elle a subies tout le long. D'accord. Pourquoi? Parce que l'homme est doté d'une force physique plus importante. Et donc le mari doit être attentif à cela. Il ne doit jamais en venir aux mains envers sa femme. D'accord? Ça, c'est quelque chose à laquelle il doit veiller absolument. Et d'autant plus s'il est un mari chrétien. Il ne doit jamais lever la main ou chercher à brusquer, à la secouer physiquement, parce qu'elle est faible. Il doit agir envers elle, en prenant en compte cette fragilité. Son amour pour elle doit intégrer cette fragilité physique. C'est ce que Pierre dit ici. Et puis, cette fragilité, cette faiblesse aussi peut être liée parfois aux peurs et aux craintes que peuvent avoir une femme. Regardez à la fin du verset 6, il dit « Sans vous laisser troubler par aucune crainte ». Peut-être qu'il y a des craintes qui sont propres aux femmes, des peurs qui sont propres à elles quand elles voient leurs enfants, quand elles voient leur couple. Il y a des choses qu'elles vivent d'une certaine manière et le mari doit aussi tenir compte de ses craintes et de ses peurs. Il doit chercher à savoir ce qu'elle craint, chercher à savoir ce qui lui fait peur. Et l'aimer en intégrant cela, en cherchant comment il va répondre à cette particularité de leur épouse. Ce peut être aussi, dans ce que Pierre dit ici, une hypersensibilité de la femme aux choses. Il y a des femmes qui sont, les femmes en général sont plus sensibles aux choses que les hommes. Il y en a qui ont une sensibilité encore plus accrue. Et l'homme et la femme ne ressentent pas les choses de la même manière. Les mots que le mari utilise peuvent profondément affecter la femme, sa femme, et la blesser. Simplement à cause de sa sensibilité. Peut-être pour lui, c'est rien, il n'a pas dit grand chose. Mais pour elle, c'est énorme. C'est énorme. Il doit le savoir. Et ne pas le savoir et agir sans tenir compte, c'est péché devant Dieu. C'est ça que Pierre souligne ici. Il doit le savoir. Il doit l'apprendre. Et donc, le mari plein de compréhension doit prendre en compte cette sensibilité et se laisser façonner par cette sensibilité de sa femme pour agir envers elle avec la plus grande tendresse. Parce que ce qu'il doit montrer à sa femme, c'est pas ici c'est moi qui commande, mais c'est ici c'est Dieu qui règne dans mon cœur. Et la tendresse du Seigneur, la douceur du Seigneur, qui, la Bible dit, il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et il doit faire cet effort-là. Et ça n'est pas facile, je le sais, en regardant dans ma propre vie. On a toujours tendance à vouloir en imposer, mais c'est pas du tout ce que l'Écriture nous commande en tant que mari. D'ailleurs, c'est un principe biblique. L'apôtre Paul dit en Colossiens la même chose. Il dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles, ne soyez pas amères contre elles. » Alors parfois, on a envie de dire « Marie, aimez vos femmes » et puis ça nous arrange parce que quand on a dit « aimer », on n'a pas dit plus ce qu'il faut faire. Mais ici, Paul dit « aimer », c'est-à-dire « ne soyez pas amères envers elles ». Et le principe de considérer la faiblesse est quelque chose qui est extrêmement important dans l'Écriture. L'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 9 et qu'il montre comment il n'est pas revenu sur ses droits, il dit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. » Parce qu'il ne voulait pas briser les gens. Il s'est adapté à la force de la personne avec laquelle il était. Le mari doit s'adapter à la force de sa femme. C'est son devoir de le faire. C'est l'ordre que Dieu lui donne. Nous qui sommes forts, dit l'apôtre Paul, dans le contexte des libertés concernant ce qu'on peut manger, il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, le fort doit faire l'effort. Vous comprenez ce que je veux dire? Il doit faire l'effort de s'adapter. Et pas se complaire en lui-même en utilisant sa force. Et donc le mari, dit Pierre ici, doit agir avec sa femme en ayant de la compréhension ici, comme avec un sexe plus faible. Il doit aussi, il ajoute, honorer sa femme comme devant hériter avec lui de la grâce de la vie. Il doit reconnaître l'égalité avec elle, qu'elle est égale à lui sur le plan des privilèges spirituels. Il n'est pas au-dessus de sa femme. Même s'il a une responsabilité spirituelle dans le foyer, il n'est pas au-dessus de sa femme. Et ce que Pierre dit ici met en évidence le fait que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de différence. Comme Paul le disait en Galates 3, 28, il dit « Il n'y a ici ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. » Et puis Pierre ajoute ici « Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Il dit qu'il y a un danger pour le mari qui n'obéit pas à ce commandement-là. C'est de se tromper et de croire qu'il est en communion avec Dieu et que sa vie de prière est tout ce qu'il faut. Si, il dit, vous n'avez pas la considération pour votre femme, vous cherchez pas à la comprendre, vous ne tenez pas compte de sa sensibilité, vous n'agissez pas avec elle avec amour, vous ne l'honorez pas, eh bien, Dieu n'exauce pas vos prières. C'est pas la peine de faire le spirituel. Il dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez prêcher si vous voulez. Vous prêchez, mais la communion, elle n'est pas là. Vous pouvez prier si vous voulez. Vous priez, mais la relation avec Dieu, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est important pour nous, hommes et maris, d'entendre ça et de demander au Seigneur de changer nos cœurs et de nous aider à mettre sa parole en pratique. Le manque de considération pour sa femme est un obstacle à la vie de prière. Pierre le dit comme ça. Le manque de considération pour sa femme, l'attention, la tendresse, l'affection, le temps pour échanger avec elle, pour apprendre à la connaître, etc. S'il n'y a pas ça, il y a un obstacle dans la vie de prière. Et donc, le mari ne doit pas s'imaginer qu'il est en communion avec Dieu s'il ne s'acquitte pas de ses responsabilités envers sa femme. C'est un péché que de ne pas le faire. Et la Bible dit, dans Ésaïe 59, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Autrement dit, c'est un péché que de ne pas prendre soin de sa femme. Et ce péché demeure un obstacle et empêche à Dieu de nous écouter. Donc que le Seigneur nous aide à saisir cela. Un auteur a dit ceci, il a dit « Dans une maison bien conduite, on reconnaît l'autorité du mari chez la femme et la dignité de la femme chez le mari. » Dans une maison bien conduite, on reconnaît l'autorité du mari chez la femme. C'est-à-dire que la femme honore son mari en montrant qu'elle est soumise à lui. Et il dit « On reconnaît la dignité de la femme chez le mari. L'attitude de la femme, du mari envers la femme est telle que c'est reconnu, c'est évident qu'il l'honore, qu'il l'entoure et qu'il prend soin d'elle. Je termine avec juste cette conclusion. Ce texte est une exhortation à tous. Il est une exhortation aux incroyants. Premièrement, il montre qu'il est urgent de venir à Christ. Regardez bien ce que Pierre dit. Il dit, « Femme, que chacune de vous soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Gagnés à quoi ? Gagnés à l'Évangile. Autrement dit, ce que Dieu a en vue ici, quand il exige le comportement, c'est la conversion du non-croyant. Voyez ? Donc ce texte est une exhortation aux non-croyants à venir à Christ. Il montre combien Dieu impose, j'ose dire, une conduite particulière à ses propres enfants afin que ceux qui ne sont pas en Christ puissent venir à Christ. Donc, c'est une exhortation à venir à Christ. Ça montre à quel point aux yeux de Dieu, le salut et la conversion est une chose importante. Et c'est ça qui est en jeu ici. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi ? Qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc le fait de glorifier Dieu, de se tourner vers Christ, est ce qu'il y a de plus important ici aux yeux de Dieu et dans le foyer. Quand il demande à la femme d'être soumise à son mari non-croyant et au mari d'avoir de la considération pour sa femme, il a pour objectif d'amener l'Évangile à celui qui ne le connaît pas par l'attitude de ses propres enfants. Ça, c'est le premier point que je voudrais apporter en conclusion. Deuxièmement, il s'adresse aussi aux croyants de toutes circonstances, qu'ils soient mariés ou qu'ils ne soient pas mariés. Ici, c'est un appel à plaire à Christ qui est donné à la femme croyante et ici au mari croyant. Et le mari doit agir de manière à plaire à sa femme, répondre à ses besoins, et la femme doit agir de manière à plaire aussi à son mari. Donc, soit dans le mariage, soit dans le célibat, pardon, je veux dire, c'est vrai, plaire à la femme est appelée à plaire à son mari, le mari à plaire à sa femme, mais surtout à plaire à Christ, je veux dire, dans ce qui est dit ici. Donc, soit dans le mariage, soit dans le célibat, c'est un texte qui nous exhorte à chercher à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, regardez ça rapidement, 1 Corinthiens 7, verset 32, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 7, verset 32, il dit, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. » Et puis il dit la même chose concernant la femme. Il dit, celle qui n'est pas mariée, verset 34 au milieu, s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses et des moyens de plaire à son mari. Mais en cherchant à plaire à son mari, elle cherche à obéir au commandement de Dieu. Donc, in fine, c'est à Dieu qu'elle cherche aussi à plaire. D'accord. Qu'elle soit mariée ou qu'elle ne soit pas mariée, sa vie est ponctuée par le fait qu'elle cherche à plaire au Seigneur. Et ici, montrez-moi une chose que, dans ce que Pierre dit, qui ne concerne pas quelqu'un qui n'est pas marié. Être soumis, avoir de la considération pour les autres, être attentif à leurs besoins, faire attention à leur sensibilité. Est-ce que ce sont des choses qui ne sont réservées qu'aux personnes qui sont mariées? Non, absolument pas. On voit ici que tous nous sommes concernés par ce que Pierre dit ici, mais en particulier les personnes qui sont mariées, c'est vrai. Et puis, dernier point, attention pour ceux qui ne sont pas mariés et qui aspirent à être mariés. Attention au choix d'un conjoint. Pierre décrit la situation difficile du couple mixte spirituellement. D'accord ? Il dit, serviteur, soyez soumis à vos maîtres, surtout à ceux qui sont d'un caractère difficile, situation difficile. Il dit, femme, soyez soumise à votre mari, surtout s'il est même s'il est non-croyant. Et donc, il souligne la difficulté que c'est que d'être associé dans le mariage à un non-croyant. Et je dis, ce texte n'est pas en train de nous dire que vous pouvez vous marier à un non-croyant, pas du tout. On sait par ailleurs que la Bible le dit. Donc, quand on choisit, quand on désire se marier, il faut obéir à la parole de Dieu et chercher à épouser un croyant. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut chercher les caractères qui sont là. Quelqu'un qui cherche, une jeune femme qui cherche à développer la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Si tout ce que vous connaissez d'elle, c'est sa beauté extérieure, son amour pour le mascara et le fond de teint, vous pouvez chercher ailleurs, même si on professe être chrétien. Et pour une jeune femme qui aspire à se marier, si tout ce que vous savez de lui, c'est sa belle musculature et sa barbe bien taillée, parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. On parlait dernièrement avec les frères de cette mode de la barbe. Là, beaucoup d'hommes, on a vu beaucoup d'hommes avec la barbe maintenant. Hein. Si tout ce qui vous attire, c'est ça, il faut vous poser des questions. Cherchez, est-ce un homme qui aime le Seigneur, qui montre de la considération pour les autres, hein? Je dis, ah, mais je ne le connais pas, je ne peux pas savoir s'il montre de la considération. Regardez comment il vit avec sa famille, comment il traite sa mère, comment il traite ses sœurs. C'est important, ce sont des signes. Hein. Dieu permet qu'on trouve des signes. D'accord ? Comment il est dans son église, il sert, etc. Regardez. Et cherchez ceux qui ont le cœur qui veulent servir Dieu. Parce que la beauté extérieure, ça passe, hein, ça se fane. D'accord ? Mais là, pureté du cœur, l'apôtre Pierre dit, elle est comment? La pureté incorruptible, vous avez vu ça? D'un esprit doux et paisible. C'est une pureté incorruptible qui ne passe pas. C'est celle-là qu'il faut chercher. Bien sûr, ça ne veut pas dire, on ferme les yeux et puis on dit, non, pas du tout. Il y a l'aspect extérieur. Il y a l'apparence. Il y a la beauté extérieure. Mais si c'est tout ce que vous avez, vous êtes en danger. vous êtes en danger. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, que tu nous conduises à travers elle et que tu nous donnes le désir de la mettre en pratique et de vivre pour ceux qui sont dans les foyers d'une manière qui t'honore. Nous pensons à ceux ou celles dont le conjoint ne te connaît pas, que tu leur donnes toute la sagesse, tout l'amour nécessaire pour vivre selon ta parole et être temps plein pour conduire leur conjoint à toi. Seigneur, nous te prions que tu donnes à chacun de nous de rechercher ces caractères, cette pureté intérieure, cette beauté intérieure, plus que toute autre chose, pour la gloire de ton nom. Amen.